Et remercier Madame Anne-Marie Armenteras de s'accéder d'avoir bien voulu se rendre disponible aujourd'hui pour venir nous faire une communication autour de la politique de santé mentale et l'organisation de la psychiatrie. Je rappelle que Madame Armenteras de s'accéder est la directrice générale de l'organisation de l'offre de soins. Et nous vous remercions par avance de tenir dans la durée qui vous a été donnée. On vous a donné combien de temps ? On vous a donné combien de temps ? 25 minutes ? Ça ira ?
Bah écoutez, vous m'interromprez.
En fait, je vous explique le jeu. Normalement, à 5 minutes de la fin, je vous montre le petit carton jaune et le rouge quand, quand c'est terminé.
Ça voilà. Marche.
25 minutes. Merci.
Merci. Bonjour à tous. Monsieur le Président de l'association, cher Pascal Mariotti, chers tous que je connais un peu, je salue Monsieur Girard, je salue Madame Finkelstein, je salue Madame Azan, je sais que vous intervenez après-midi, je salue peut-être d'autres représentants de fédérations et d'associations. Merci de m'avoir invité. Cette invitation, elle est à l'image de nos relations entre votre association et la Direction générale de l'offre de soins. Je voudrais d'abord vous féliciter et vous dire que je suis très attentive au fait que cette année, votre réunion comporte deux fois plus de participants que l'an dernier. C'est un élément extrêmement positif et qui est à souligner. Et il est positif et à souligner, y compris dans mon propos. Mon propos, et pardon, je vais peut-être revenir, je vais vraisemblablement revenir sur des choses que vous connaissez, que vous avez déjà évoquées. J'interviens pas à l'ouverture de vos journées, mais déjà au milieu et proche de la fin. Et je voudrais vous parler d'un cadre qui est le cadre posé par la loi de modernisation de notre système de santé et des enjeux, sans revenir pour autant sur toute une série de sujets qui nous ont préoccupés ces derniers mois. De quoi parlons-nous et de quoi devons-nous nous souvenir en permanence pour l'action ? Et l'action en cours et l'action à venir. La loi de modernisation de notre système de santé, elle a défini les composantes de la santé mentale et elle en a défini les effecteurs. Les composantes, c'est, il n'y a pas de surprise, la prévention, le diagnostic, le soin, la réadaptation, la réinsertion sociale et les effecteurs, il n'y a pas de surprise. Les établissements de santé autorisés en psychiatrie, les médecins libéraux, les psychologues, l'ensemble des acteurs de la prévention, du logement, de l'hébergement et de l'insertion. Le sujet n'est donc pas la définition des composantes et des effecteurs. Le sujet d'aujourd'hui est celui de l'engagement ou de la poursuite de la dynamique qui unit sur les territoires, l'ensemble de ces acteurs pour qu'ils coordonnent dans leurs interventions des parcours de soins coordonnés, lisibles et donc efficaces. Et la loi a également confirmé l'engagement des établissements de santé autorisés en psychiatrie en reconnaissant plus spécifiquement la psychiatrie de secteur. Je voudrais en redire deux mots. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer sur ce sujet face à des inquiétudes qui ont été manifestées depuis quelques mois. Et donc, je voudrais redire avec force que l'introduction dans la loi de la mission de la psychiatrie de secteur, c'est la reconnaissance des acquis de la politique qui a été instaurée il y a maintenant très longtemps et qui, pour le coup, était précurseur dans le sens de la responsabilité territoriale, dans le sens de la variation des prises en charge entre l'hospitalisation, l'ambulatoire, dans le sens de la reconnaissance de la chronicité et de la nécessité de la prise en charge au long cours des maladies psychiatriques et de la coordination du suivi pendant tout le temps. Et donc, le sujet, l'enjeu, le défi, c'est bien parce qu'il existe encore aujourd'hui, malgré les acquis de la projection de vos activités, de vos savoirs, de vos progrès sur les territoires, il existe des inégalités en termes d'accès, en termes d'accès au diagnostic, en termes d'accès au traitement et des inégalités parfois dans l'accès en termes de non-lisibilité, de non-compréhension de la première porte à laquelle on doit s'adresser de façon à rentrer dans un circuit de prise en charge. Et notre équation, et vous connaissez parfaitement et mieux que moi, notre équation, elle est que nous savons que ces inégalités sont présentes et nous savons pour autant que votre action, celle des établissements autorisés en psychiatrie, a cru, a grandi, a diffusé, s'est déployée, mais que la demande en soins est également plus importante. Nous savons qu'elle s'est élargie et que vous avez à faire face à la prise en charge des troubles anxieux et dépressifs qui s'est développée, des troubles spécifiques comme ceux du spectre autistique, des troubles du développement, des troubles du comportement alimentaire, des addictions, etc. Cette demande en soins, elle a donc cru. Pour y faire face, il y a vos établissements, il y a également le médecin traitant, il y a l'ensemble des offreurs de soins en psychiatrie non sectorisés, les établissements privés lucratifs qui occupent une place très importante dans notre pays, les psychiatres libéraux, nous n'oublions pas, et vous le savez aussi, que près de la moitié, 44% des 15 000 psychiatres ont à ce jour un exercice libéral ou mixte. Et puis, il y a également les établissements et les services sociaux et médico-sociaux qui, sous l'impulsion de la loi de février 2005, qui reconnaît le handicap psychique, ont étoffé leur offre d'accompagnement. Et puis, nous savons également, et vous le savez puisque vous le pratiquez, les connaissances scientifiques se sont développées et vous avez largement tous développé une diversification de l'offre médicamenteuse, de l'offre des pratiques. Je n'y reviens pas. Je voudrais insister sur un point. Cette évolution des connaissances scientifiques, leur implication pour la clinique, pour la dynamique que cela procure dans les équipes, pour l'attractivité des plus jeunes, nous y tenons beaucoup. Et nous savons maintenant, mais je vais y revenir, que cette dynamique de recherche et de recherche clinique, de recherche sur les pratiques, doit encore plus s'inscrire dans la dynamique territoriale. Les projets de psychiatrie et de santé mentale, les plus fondamentaux, les plus biologiques, les classiques et ces thérapeutiques, mais également tous les projets qui se situent dans le champ des sciences humaines et sociales ou de l'organisation en santé sont déjà, seront et doivent être davantage soutenus par la Direction générale de l'offre de soins. Je vous le dis comme un appel à contribution et un appel à participation. Depuis 5 ans, ce sont 87 projets qui ont été financés pour un montant de 26 millions. Mais ce qui m'intéresse de signaler, c'est que les promoteurs, de façon croissante, sont des établissements de psychiatrie et que ceci appelle la poursuite du travail sur la coordination du travail en commun entre équipes pour s'insérer, s'inscrire et dans ces projets. Et donc, ces évolutions sur la demande en soins, sur ces offreurs et les pratiques en soins ont transformé et vont continuer à transformer le champ de la psychiatrie et de la santé mentale. Et c'est pour cela qu'il fallait redéfinir le nouveau cadre dans l'organisation territoriale. Parenthèse, toute notre politique de santé aujourd'hui, elle repose sur le triptyque territoire, domicile, gradation. On s'y retrouve pour les activités médicales, on s'y retrouve pour la psychiatrie et la santé mentale. Le domicile, parce que c'est le réacteur de l'indicateur qui prouvera que nous avons eu raison pour favoriser le maintien à domicile, et la gradation dans le territoire, c'est l'interaction entre toutes les structures et tous les modes de prise en charge que vous connaissez déjà. Et donc, la loi a dit, et toutes ces évolutions nécessitent de recentrer peut-être davantage les établissements de santé autorisés en psychiatrie sur le cœur de mission, qui est être en priorité le recours spécialisé pour les troubles sévères et persistants, permettre un diagnostic précoce en réduisant les délais d'accès à la première consultation, à la lisibilité de la détection, apporter un soutien aux professionnels du premier recours en favorisant un avis spécialisé, et puis organiser un soutien aux acteurs sociaux qui sont confrontés aux situations de détresse d'origine psychosociale, avec une attention particulière aux situations de précarité. La loi précise les modalités d'organisation du recours de proximité avec l'organisation des soins ambulatoires, y compris sous la forme des soins à domicile accomplis, exercés par des équipes pluriprofessionnelles. J'ai entendu une des dernières interventions de votre discussion et c'est bien le sujet. Savons-nous et comment savons-nous ? Nous, les tutelles, l'autorité sanitaire, vous accompagner dans le développement substitutif ou complémentaire des prises en charge en ambulatoire et au domicile. C'est une des questions qui a été posée. Je souhaiterais que cette question soit une des questions importantes qui sera abordée au sein du prochain, nous allons le mettre en place, comité de pilotage de psychiatrie, à côté de la Direction générale de l'offre de soins, qui sera présidée par le docteur Halimi, que je co-présiderai, qui réunira l'ensemble des composantes de votre profession, bien évidemment, de vos pratiques, avec vos représentants, et j'indiquerai tout à l'heure les autres thèmes sur lesquels nous pourrions, parce que nous déciderons ensemble de ces thèmes, y travailler. Je voudrais encore insister sur cette notion de continuité des soins psychiatriques pour assurer notamment la coordination sur les patients complexes. Pour vous dire que, vous le savez, un des enjeux qui est posé par ailleurs par la loi de modernisation de notre système de santé n'est pas tant la création de toute une série de nouvelles structures d'offres de soins et de prise en charge que celle d'interpeller les professionnels et d'interpeller les autorités que nous sommes sur comment nous organisons mieux, davantage, sans faire des couches de millefeuilles, mais en étant plus intelligents, plus réactifs, plus pragmatique, davantage centré sur l'association de tous les acteurs. Donc, comment nous réalisons mieux la coordination entre tous les acteurs. Et pour le coup, la prise en charge et la coordination autour des patients complexes, qui mieux que vous avez davantage l'expérience ? Vous l'avez. Et lorsque nous inventons avec les professionnels des modalités de prise en charge de la coordination sur les patients complexes, nous nous référons bien souvent à ce que vous avez mis en place et donc que vous devez poursuivre et continuer. Le sujet, je vous le disais tout à l'heure, c'est donc maintenant la définition des projets territoriaux de santé mentale. L'article 69 de la loi, tout en reconnaissant et valorisant la politique de sectorisation, intègre donc celle-ci dans une organisation plus globale, nous le savons, qui est celle de pouvoir réunir, qui est pardon, la nécessité de pouvoir réunir dans un territoire la multiplicité des acteurs et des intervenants dans le champ et d'assurer la coordination entre eux pour faire quoi ? Des parcours de santé et de vie de qualité et sans rupture. Cette intervention coordonnée, la loi vous demande de l'organiser au sein du projet territorial de santé mentale. Pour faire quoi ? Pour organiser les conditions d'accès de la population à la prévention et en particulier au repérage, c'est-à-dire en se situant très en amont ou en amont de ce qui va devenir la prise en charge et les soins, le repérage, le diagnostic et l'intervention précoce sur les troubles. Se coordonner pour quoi faire ? Pour visualiser dans un territoire l'ensemble des modalités et des techniques de soins qui sont présentes pour les prises en charge spécifiques et pour organiser les modalités d'accompagnement. Le législateur vous a tenu libre, c'est-à-dire que le territoire, il est défini à la main des acteurs. C'est un territoire d'intervention, c'est un territoire de projet, c'est un territoire qui doit s'adresser à un bassin de vie de la population, sans que pour autant toutes les offres spécifiques existent dans ce territoire, mais que l'ensemble des acteurs fassent un diagnostic des besoins, un diagnostic de ce que eux-mêmes sont en capacité d'apporter pour pointer à la fois les carences existantes sur le territoire, proposer les coordinations, les modalités qui permettent à des patients de les adresser plus loin ailleurs, là où la prise en charge spécifique existe et qui permettent de développer les points forts que tous ces acteurs ont déjà développés. Et donc, la concertation avec les ARS, je vous invite de ce point de vue sur les projets territoriaux de santé mentale, la définition de votre diagnostic territorial tel que vous pouvez le porter avec les autres acteurs, à vous y engager. Nous savons que cela prendra du temps. Qu'est-ce que nous gagnons ? Nous gagnons simplement à pouvoir progresser. Et tout progrès en matière de coordination des acteurs est un progrès pour essayer de progresser dans la détection, le suivi, la prise en charge et en allant jusqu'à la réinsertion et le suivi au long cours. Nous sommes là à la Direction générale de l'offre de soins à votre disposition pour travailler avec vous, les représentants des établissements, sur des modalités d'accompagnement. Il faut que nous y réfléchissions, que vous y réfléchissiez et j'attends que vous reveniez vers nous, vers moi, pour que, ensemble, nous élaborions les modalités qui vous paraissent les plus efficaces, les plus pragmatiques pour vous accompagner dans cette démarche. Je ne reviens pas sur les groupements hospitaliers de territoire, ni sur les communautés psychiatriques de territoire. Les choses sont en route, sont en marche, avec parfois des obstacles, parfois de très bonnes surprises. En tout cas, le travail est en marche et c'est le plus important. Je voudrais juste maintenant dire un mot sur la dernière discussion, qui est celle de l'isolement et de la contention. pas sur le fond, mais sur la forme et sur les modalités. Vous le savez, vous l'avez dit, c'est inscrit dans la loi qui dispose que l'isolement et la contention sont des pratiques qui doivent être utilisées en dernier recours et qui donc énoncent un objectif d'encadrement et de réduction de ces pratiques. J'ai entendu à la fin de votre discussion des observations sur la variabilité des pratiques. Et je disais en aparté à Madame le contrôleur général de privation des lieux de liberté que hier, la direction générale de l'offre de soins avec d'autres acteurs, avec la CNAM, avec l'IRDES, nous avons publié le premier atlas français de variation des pratiques sur 10 interventions chirurgicales. Donc on est loin de votre préoccupation sur le sujet, mais pas sur la notion de variation et de variabilité des pratiques. La variation des pratiques, il faut se déculpabiliser parce que c'est un thème qui est observé dans tous les pays. Et par exemple, un rapport de l'OCDE en 2014 a cité l'ensemble des pays, dont certains qui, depuis plusieurs décennies, s'interrogent sur la variabilité des pratiques en disant que c'est un phénomène singulier et global. Aucun des facteurs qui peuvent expliquer la variation des pratiques à lui seul ne réunit un seul ratio explicatif. Mais en revanche, tout le monde est d'accord, dans tous les pays, sur le fait que la transparence sur la variabilité des pratiques permet d'interroger les professionnels et les équipes. Et vous le faites, et vous le faites depuis des années, et vous allez poursuivre sur sujet. Sur ce sujet, donc, nous allons, et je vous l'assure, prendre le temps qu'il faut pour pouvoir écrire l'instruction que vous demandez et dont vous avez besoin sur registre, instruction qui intégrera les observations de Madame Hazan, instruction qui sera soumise à une concertation extrêmement large. Nous sommes conscients de la sensibilité de la question, mais nous sommes conscients de votre souhait à tous de pouvoir ensemble, autorités sanitaires et professionnels et équipes, progresser donc sur le sujet.
Est-ce que on peut avancer vers la conclusion, s'il vous plaît ?
Voilà. Nous nous rencontrons. Juste dire que en 2015, mais comme les années précédentes, ce qui est appelé le grand ensemble maladies psychiatriques et utilisation des médicaments psychotropes est placé au second rang des dépenses de santé qui sont remboursées par l'assurance maladie. Ce sont 22 milliards d'euros, c'est-à-dire 6 de plus que les maladies cardiovasculaires ou le cancer. Au-delà des 2 milliards, des 22 milliards d'euros, ce sont 2 millions de patients, autant de familles, autant de situations individuelles de souffrances, de difficultés que vous avez à prendre en charge et à accompagner. 2 millions, on le sait tous, c'est un Français sur 30 et donc nous savons, 1 sur 10 dans sa vie aura à un moment donné besoin de vos services et de vos équipes. C'est ce qui nous donne la conscience de la responsabilité aux uns et aux autres dans le cadre chacun des missions qui nous sont imparties. Et donc, cette responsabilité, nous allons l'exercer en mettant en œuvre les premiers textes d'application de la loi de modernisation de notre système de santé, en travaillant et en œuvrant au groupe de travail qui compose le Comité national de santé mentale mis en place par Madame la Ministre il y a maintenant un mois. L'installation de ce comité de pilotage au niveau de la DGOS dont je parlais tout à l'heure et qui pourrait se pencher en premier lieu justement sur le projet d'instruction contention-isolement, par ailleurs élaboré dans le groupe de travail en cours, sur la contribution de la psychiatrie au diagnostic et au projet territorial de santé mentale, et puis le lancement d'une réflexion qui n'est que la poursuite des préoccupations, mais le lancement de cette réflexion au sein de ce comité de pilotage des modalités d'attribution des enveloppes de financement en fonction de l'activité et en fonction du résultat auquel parviennent les équipes sur la diversification des modalités de prise en charge. Ce sujet est complètement ouvert. Ce sujet, nous allons l'aborder de façon pragmatique avec l'espoir de pouvoir y travailler consensuellement et de pouvoir sortir sur des propositions. Et cette responsabilité, nous l'exerçons également avec votre dynamique, celle que vous avez tous impulsée, celle que vous continuez à impulser. De façon cohérente, de façon résolue et unie, associations de patients, acteurs, établissements, équipes et autorités sanitaires. C'était le sens des propos que je voulais tenir. Je vous remercie encore. Pardon si j'ai été plus longue.
Non, c'est parfait. C'est absolument parfait. Est-ce que vous restez avec nous 3 minutes ?